Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute.
Chers auditeurs, je vous espère en pleine forme pour cette nouvelle chronique Happy Work. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser une question. Est-ce que se faire la bise au bureau va devenir passé de mode? Et oui, car le baiser en cette période de pandémie est devenu un péché aux yeux de nos états, quelle que soit la personne à qui on souhaite le donner par ailleurs. Mais au bureau, là, c'est carrément impossible. Il faut savoir que se faire la bise au travail est une spécificité très française qui déroute souvent les étrangers qui arrivent en France, qui estiment qu'ils sont un peu trop chaleureusement accueillis par ce geste qu'ils jugent intime. Beaucoup de pays ont adopté le hug, vous savez, cette étreinte amicale assez masculine qui pour nous est au contraire un geste qui peut nous mettre mal à l'aise et que l'on réserve plutôt à nos proches. Lorsqu'on écoute les étrangers sur le sujet, notamment nos amis anglais, avec la très amusante vidéo de Paul Taylor, un humoriste anglais qui vit en France, on se rend compte que la bise est vraiment omniprésente dans notre culture. On la fait quand on arrive pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, pour se remercier. Bien évidemment, le dernier arrivé doit la faire à tout le monde. Bref, le français ne manque jamais une occasion pour plaquer ses lèvres ou sa joue, selon la chasteté du baiser, contre celle des autres. Mais même pour nous qui sommes habitués à cette pratique, vous en conviendrez, il y a parfois des moments qui peuvent être gênants, surtout au bureau. Par exemple, quand on ne connaît pas les gens, quand on ne sait pas quelles sont les habitudes de l'entreprise. Imaginez tendre la joue à votre grand patron et vous prendre le vent du siècle. Également, quand on porte chacun des lunettes et que le télescopage semble inévitable. Quand votre collègue masculin ne tourne pas la tête en même temps que vous, aimant de rejouer la scène du baiser, digne des plus grands films hollywoodiens, sous l'œil autant gêné qu'amusé de vos collègues. Ou encore quand vous vous prenez le nez de quelqu'un dans l'œil, quelle idée aussi d'avoir un si grand nez. La bise peut donc occasionner des situations dérangeantes, surtout que les codes en la matière ne sont pas explicitement établis au travail. En premier lieu, cela dépend beaucoup de l'activité professionnelle. Très largement répandue dans le monde créatif, comme les agences de publicité, l'univers de la musique, de la mode, où c'est un rite de reconnaissance, et où même les hommes doivent se faire la bise, ce qui est d'ailleurs du ressort de l'impensable pour beaucoup de cultures étrangères. Pour une femme, c'est assez simple, elle fait la bise à tout le monde quand c'est l'usage, les hommes, quant à eux, ont quand même tendance à conserver le rituel de se serrer la main. Mais le problème au travail quand vos collègues sont nombreux, c'est que vous pouvez perdre beaucoup de temps à faire le tour de tous les bureaux. Sachant par ailleurs que le nombre de bises dépend de la région où vous êtes. 4 dans le nord, 3 à Montpellier, mais seulement 2 à Toulouse, située pourtant à 250 km de là. On comprend pourquoi les personnes venant d'un autre pays s'y perdent totalement. Le temps passé à faire la bise à tout le monde vite vous prendre la moitié de la matinée. On voit donc qu'en termes de productivité, la bise n'est pas gagnante. En revanche, si elle semble efficace pour favoriser des relations de travail conviviales, elle n'est pas si simple à gérer pour les managers qui, instaurant une certaine complicité en embrassant leurs collaborateurs, peuvent avoir plus de mal à faire preuve d'autorité avec eux. Alors, quelles alternatives peut-on avoir quand on n'a plus envie de faire la bise à ses collègues? Eh bien, serrer la main à tout le monde est une possibilité, mais cela peut passer pour de la froideur si ce n'est pas dans les usages. Un bonjour général avec un signe de la main, par exemple, est une bonne option pour gagner du temps tout en restant poli. Car le problème est souvent là. Ne pas faire la bise quand tout le monde l'a fait peut être considéré comme un manque de respect par ses collègues. Alors, il y a bien aussi une méthode infaillible que vous avez déjà pratiquée, j'en suis sûre. C'est celle de la maladie contagieuse, un rhume, un bouton de fièvre ou autre, qui vous excuse durant quelques jours. Mais attention à ne pas en abuser. Vous risquez de passer pour une bactérie ambulante ou pire encore pour un asocial si vous êtes pris à votre propre jeu. En termes de santé, la bise au travail ne remporte pas non plus la palme puisqu'il a été prouvé que dans la mesure où, en moyenne, une personne porte les mains à sa bouche ou à son visage 16 fois par heure. Imaginez la prolifération des bactéries sur notre joue et leur transmission quand celle-ci en touche une autre. Pas étonnant donc que tout le monde soit enrhumé en même temps au bureau. Évidemment, en ce moment, la bise est justement proscrite pour ces raisons. Se serrer la main aussi d'ailleurs, et le port du masque est obligatoire. On voit donc que cette problématique de transmission des virus était bien réelle, et c'est la raison pour laquelle je me pose cette question de savoir si cette coutume allait perdurer ou non dans le monde du travail. Je pense que les fameux gestes barrières ont encore de beaux jours devant eux au vu de la situation nébuleuse dans laquelle nous nous trouvons face au coronavirus et qu'il y a fort à parier que le check du coude ou le bonjour général vont davantage être utilisés. Cependant, chacun a tellement envie de revenir à la vie d'avant qu'il est possible que ces habitudes si ancrées dans notre pays revoient petit à petit le jour. Eh bien, je vous fais une grosse bise. Et je vous souhaite une très bonne semaine avec Esprit Occitanie.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je poursuis la lecture du roman de Frédéric Coudron « La suerte de matar » au Diable Vauvert. Nous retrouvons donc Lise et Paco à Mexico. Juin 2018, Mexico. Malgré l'insistance de Paco, je n'avais pas assisté à la sortie des quatre taureaux suivants. J'en avais assez vu. J'étais descendue dans les coursives des arènes pour m'allumer une cigarette et boire un verre de tequila. À dire vrai, j'avais même bu plusieurs verres. J'avais besoin de décompresser. Je m'en voulais d'avoir été troublée par la prestation d'Ortega, d'avoir éprouvé ce sentiment bizarre à la limite de l'excitation. Accoudée au bar, j'étais presque ivre. Le serveur, par chance, parlait français. Il était de Bayonne, expatrié au Mexique depuis 20 ans. Heureux de trouver une Française, il m'aida à me changer les idées. Enfin, pas vraiment, car inlassablement, il ramenait nos discussions de comptoir à la corrida. Ortega, c'est quand même quelqu'un. Rien à voir avec El Carillo. Pourtant, le public s'enthousiasme de plus en plus pour ce genre de matador spectaculaire. Mais ce n'est pas ça l'esprit de la corrida. Ortega, lui, il sait. Cet homme est touché par la grâce et il respecte le taureau. El Carillo confond corrida et combat de gladiateurs, mais ça plaît. À vous entendre, Ortega n'a pas que des qualités. Dans l'arène, oui. En dehors, c'est autre chose. Comment ça? C'est un coureur de jupons. Il a une sale réputation avec les femmes. Certains disent qu'il respecte plus les taureaux. Et puis, il y a eu cette affaire de meurtre. De meurtre? Oui, Il y a 2 ans, il a été accusé du meurtre d'un ganadero. Voyant mes lacunes totales dans le vocabulaire taurin, il précisa. Un ganadero, un éleveur de taureaux, quoi. Il a été arrêté? Oui, mais relâché tout de suite, car la police espagnole n'avait pas de preuves. C'était qui, ce ganadero? Je n'ai plus le nom en tête, mais c'était un gros élevage. Ça a fait du foin dans le Mundillo. J'allumai une énième vogue. Mon instinct d'enquêtrice se révélait, me poussait à appeler la vestiaire. Je sortis mon iPhone au grand dam du barman qui retourna essuyer ses verres. En décrochant, mon supérieur pesta. « Tu as vu l'heure qu'il est ?»« Excuse-moi, j'avais zappé le décalage horaire. Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai un scoop. Ortega a vraisemblablement été impliqué dans une histoire de meurtre. Quoi ?» Il aurait tué un éleveur de taureaux. Jamais entendu parler de ça. Ça s'est passé quand et où? Il y a 2 ans, en Espagne. Il y a eu une enquête? Oui. Et il a été inculpé? Non, mais laisse tomber alors, Lise. Je sais que tu aimerais voir des criminels partout et que tout ce bordel te passionne. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande, là. Je ne crois pas que tu sois meilleur que la police espagnole. Donc, s'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien. On veut un reportage sur la corrida et sur ce mec, dans le cadre de la corrida, point barre. Mais je n'eus pas le temps de protester. La vestiaire avait raccroché. Ma joie avait été de courte durée. J'allais reprendre place sur mon tabouret et commander une autre tequila. Mais la foule commença à sortir des arènes. Un véritable flot d'aficionados se déversait dans les escaliers et les coursives vers la sortie. Je devais retrouver Paco dans le patio comme convenu, dans l'espoir de commencer enfin l'interview d'Ortega. Sur place, c'était l'effervescence. Les 2 matadors avaient obtenu, au total, 10 oreillers de queue, ce qui semblait relever de l'exploit. Portés en triomphe sur les épaules des peones, ils déambulaient au rythme des applaudissements. Par miracle, je retrouvais Paco qui filmait ses scènes de liesse populaire. « Ah, te voilà, Lise. J'avais peur de ne pas te retrouver. »« La corrida était magnifique. C'est dommage que tu sois partie. »« Enfin, je comprends. »« Ouais, bon, on peut l'interviewer ?»« Là, ça ne va pas être évident. »« C'est sûr. Et son agent, il n'est pas là ?»« Si, là-bas, regarde. » Je me dirigeais vers José Ramón Olano, qui avait l'oreille collée à son portable. Il était surexcité. Il parlait en français d'un contrat à revoir à la hausse. Enfin, il raccrocha radieux. « Ah, TF1, j'espère que vous avez pu prendre de belles images. »« Oui, mon collègue a ce qu'il faut. »« C'était sublime, non? Vous avez apprécié ?» Je n'étais pas vraiment d'humeur et l'alcool aidant, je fus assez sèche. « Écoutez-moi, monsieur Olano, quand pourrons-nous interviewer monsieur Ortega? Je ne travaille pas pour une chaîne locale miteuse, vous comprenez. S'il ne veut pas d'interview, on s'en va, c'est clair ?» « Mais je vous l'ai dit, mademoiselle, il va répondre à vos questions. Vous venez bien avec nous pour visiter les ganaderias. »« Oui, il est prévu que nous nous retrouvions demain soir à Séville. Votre vol est à quelle heure ?»« Dans 2 heures. »« Vol commercial ?»« Oui, Air France. Attendez. » José Ramón est là alors Ortega, toujours perché sur les épaules de ses collègues. Le matador se pencha vers son apoderado. Puis, il sembla lui répondre brièvement avant de repartir à Ombros pour suivre son bain de foule. L'impresario revint vers moi. « J'ai vu avec Ortega. On va vous emmener dans son jet. Rendez-vous à 23h à l'aéroport de Mexico. Vous avez mon numéro de téléphone ?»« Oui. Appelez-moi quand vous y serez, je viendrai vous chercher. D'ici là, préparez une liste de questions écrites que vous me donnerez dans l'avion. » « Bien, bon, ok. Et maintenant, excusez-moi, j'ai du travail, à tout à l'heure. » José Ramón disparut dans la foule. Je retournai auprès de Paco qui semblait avoir pris suffisamment d'images et s'apprêtait à remballer. « Dis-moi, Paco, ça gagne combien un matador ?»«
Ça dépend des matadors. » »«
Ortega, il gagne combien ?»« C'est le mieux payé. Cette année, je crois qu'il a gagné quelque chose comme 40 millions d'euros. » « Ah non, il a aussi un patrimoine immobilier conséquent et un très lucratif contrat publicitaire avec une marque de cosmétiques. Il possède également plusieurs restaurants à Madrid, un club de football, une ligne de vêtements et un parfum à son nom. Ah, ok, je comprends mieux qu'il ait les moyens de se payer un jet privé. C'est hallucinant. Eh oui, ce sont des rockstars, Lise. Il nous emmène dans son jet. On a rendez-vous à l'aéroport à 23h. Génial! On fait quoi en attendant? On rentre à l'hôtel? Toi, tu peux. Moi, j'irai bien me balader, faire un peu de tourisme. Ok, vas-y. Moi, je ne suis pas d'humeur. Je vais faire une sieste. On se retrouve à 21h à l'hôtel. Ça marche. Fais attention à toi sur la route. Mexico est une ville dangereuse. T'inquiète, je comptais prendre un taxi de toute façon. Nous nous séparâmes. Je me retrouvais seule à la sortie du patio, au milieu de la foule. Avant de hailer un taxi, je décidai d'appeler Louane. 2 jours que nous étions partis et elle me manquait déjà. Mon père avait accepté de la garder, donnant raison à la vaissière. Je savais qu'elle était très bien chez lui, mais j'avais beaucoup de mal à être séparée d'elle. C'était encore plus vrai lorsqu'elle allait chez son père pendant les vacances scolaires. Non pas qu'il ne s'occupait pas bien d'elle, mais il était tellement névrosé et immature que j'avais toujours des craintes, probablement infondées, quand elle était sous sa garde. J'allais composer le numéro de fixe de papa, mais je me souvins qu'en France, c'était la nuit. Décidément, la tequila m'avait grillé quelques neurones. Je renonçais à appeler ma fille, la mort dans l'âme, et fis signe au premier taxi qui passait. Voilà, chers auditeurs, je suis certaine que vous êtes impatients de connaître la suite. Je vous invite donc à me retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle également que vous pouvez réécouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr et sur l'application mobile pour Android. À très bientôt !